toutes et à tous, Audrey Lamoly et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations, une émission dédiée aux associations bien sûr et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Val d'Oise, connu également sous le nom de CAUE 95. Alors cette association issue de la loi sur l'architecture de 1977 apporte une aide à la décision à tous les acteurs du département en matière de promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Pour nous présenter cette association, j'accueille sa directrice adjointe, Charlotte Lutringer. Bonjour et bienvenue dans l'émission.
Bonjour Audrey.
Au sommaire de cette émission, je vous propose de découvrir notre invité dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Charlotte, vous nous présenterez plus concrètement ce que propose le CAUE 95. Et en dernière partie d'émission, vous nous en direz un peu plus sur les projets de transformation des cours d'école en oasis que vous accompagnez. Alors tout d'abord, je vous propose de faire votre portrait d'engagé, si bien sûr vous en êtes d'accord.
Oui, bien sûr.
C'est bon pour vous.
Donc, je suis Charlotte Lutringer, j'ai 42 ans et je suis architecte et directrice adjointe du CAUE. Vous venez de le présenter et d'en donner quelques mots. En fait, à l'origine, mon parcours n'était pas du tout tracé vers l'architecture. Quand on a préparé l'émission ensemble, vous m'avez demandé pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir architecte. En fait, j'ai fait un bac scientifique parce que je voulais, à l'origine, devenir pédopsychiatre.
C'est la voie toute tracée.
La voie toute tracée. En fait, j'étais très attirée par l'humain, par la compréhension des comportements, des émotions, des relations. Et pendant mon parcours donc de bac, j'ai rapidement, en fait, c'est devenu assez compliqué les études, le niveau était élevé, notamment en mathématiques, et j'ai fini un peu par renoncer à faire médecine. Et un jour, lors d'une réunion parents-prof, mon prof de philo me demande ce que je voulais faire plus tard. Donc je lui réponds un peu en vrac, médecine, psychiatrie, psychologie, sociologie, marketing, communication, théâtre, etc., etc. Et puis, en fait, il ferme son cahier et il me dit « Et pourquoi pas des études d'architecture ?» Ok, pourquoi pas, je fais quelques recherches. Et en fait, l'architecture me semblait assez lointaine, assez abstraite. En réalité, j'étais complètement acculturée sur cette matière. C'est vrai qu'en fait, il y a 25 ans, on ne parlait pas du tout d'architecture au grand public. On ne l'enseignait pas à l'éducation nationale. Et pourtant, l'architecture est partout. Nous habitons l'architecture, nous avons besoin de lieux pour nous abriter, pour nous retrouver, pour faire famille, pour travailler, pour apprendre, pour collaborer, etc., etc., etc. Et en fait, je me suis un peu rendu compte que l'architecture, elle façonne un peu silencieusement notre quotidien. Et ça m'a vraiment attirée. Et c'est cette transversalité du métier qui m'a attirée. Parce que être architecte, c'est pas seulement dessiner des bâtiments. C'est aussi raconter une histoire collective pour comprendre l'espace de demain. Et c'est comprendre le lien entre le corps, les lieux, penser le territoire, penser la ville, la place de chacun dans la ville, dans l'objet construit. Et voilà, c'est réfléchir au cadre de vie, face aux grands changements aussi, aux grands enjeux contemporains, et notamment le dérèglement climatique, etc. Donc voilà comment je suis un petit peu arrivée là.
Alors c'est drôle, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais vous savez ce qui a mis la puce à l'oreille ou orienté votre prof de philo qui vous conseille
architecture? Pas du tout, je n'en ai jamais reparlé, etc. je garde ça un peu sur ma propre psychanalyse, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, et voilà, et ben, j'étais pas très bonne en philo, mais en tout cas, c'est lui qui m'a un peu ouvert la porte sur cette discipline.
Et alors, lorsqu'on fait des études d'architecture ou lorsqu'on devient architecte, est-ce qu'il existe des spécialités? Vous avez dit j'ai failli faire médecine. En médecine, il y a des spécialités, il y a un tronc commun et des spécialités. Est-ce que en architecture, c'est un peu pareil?
Alors oui, forcément, il y a des spécialités. On peut avoir des spécialités plus ou moins techniques. En fait, les études d'architecte, quand on fait des études pour devenir architecte, a priori, c'est qu'on souhaite devenir maître d'œuvre, construire des bâtiments, pouvoir aller, passer du dessin, de la création à la construction de son projet, aller sur des chantiers, signer des permis de construire, etc., puis accompagner des maîtrises d'ouvrage vers la maîtrise d'œuvre. En réalité, moi, j'ai intégré l'école d'architecture Paris Val de Seine. Donc après mon bac, et peut-être que la spécificité de mon métier, et ça rentrera aussi en résonance sur ma pratique professionnelle aujourd'hui, c'est que très vite, c'est pas la maîtrise d'œuvre qui m'a intéressée, c'est pas le dessin, c'est pas la conception même du projet. J'ai très vite su que je ne voulais pas exercer mon métier de manière classique en faisant de la maîtrise d'œuvre et en construisant des projets. Et en fait, j'ai choisi une autre voie, et je pense que c'est aussi des spécialités qu'on peut choisir aujourd'hui quand on devient architecte. C'est celle de la maîtrise d'usage, du conseil et de la transmission de mon métier aux habitants et aux acteurs du cadre de vie. Parce que, et ça je l'ai beaucoup développé dans mes études et puis dans mon métier aujourd'hui, l'architecture, l'urbanisme, l'environnement sont pour moi des sujets d'intérêt public. Et ça s'est assez rapidement dévoilé pendant mes études. Le territoire est affaire de tous. Les usagers du territoire, c'est les habitants, les enfants, les adolescents, les élus, des artistes, des professionnels, tous les humains. Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte, et parce qu'aussi j'arrivais dans mes études d'archi assez acculturée, que comprendre la ville et participer à sa fabrication, c'est souvent réservé à des spécialistes. On a l'impression que pour parler de ville et d'architecture, il faut avoir fait 7 ans d'études et être très qualifié dans son métier. Or, moi, je suis convaincue que notre cité, elle doit pouvoir s'apprendre, se partager, se rêver, s'inventer collectivement. Et pour ça, aussi, il faut peut-être que des générations d'architectes, d'urbanistes se forment à pouvoir parler aussi au grand public de d'architecture.
Et alors, qu'est-ce que vous avez, où est-ce que vous avez travaillé juste après vos études? Est-ce que vous avez directement intégré le CAUE ou est-ce que vous avez pratiqué ailleurs?
Non, j'ai pratiqué ailleurs. J'ai été en effet dans des agences d'architecture qui donc ont une pratique du projet. Je dirais qu'il y a un peu l'essence même du métier, hein, qui font des concours, qui dessinent des projets, qui vont jusqu'à la construction, etc. Mais je me suis pas mal ennuyée. J'ai aussi un petit peu voyagé au Maroc pendant mes études et puis un peu en post-études. Et c'est là où je me suis rendu compte et je me suis vraiment intéressée aux usages. Et à la pratique de la co-construction d'un projet, ou en tout cas de l'auto-construction, parce que j'ai été très intéressée aussi sur les sujets de bidonville, de la médina, et de la façon dont aussi la ville pouvait parfois se faire avec les habitants. Donc j'ai pas mal travaillé aussi sur ces sujets. Et puis après, assez rapidement, j'ai rejoint le réseau des CAUE. Parce que à l'époque, c'était aussi presque un des seuls réseaux, enfin pas le seul et l'unique, mais qui travaille sur ces questions de maîtrise d'usage et de transmission et de sensibilisation. Donc je me suis pas mal éclatée au CAUE.
Alors justement, c'est quoi un CAUE? Alors vous allez nous raconter hein, pendant toute l'émission, mais il a plusieurs spécificités.
Oui,
ce CAUE.
Tout à fait. Alors le CAUE, c'est donc l'acronyme pour donc C pour conseil, A pour architecture, U pour urbanisme et E pour environnement, donc le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. En fait, les CAUE sont des associations qui sont créées en 1977 à l'initiative du conseil départemental et qui sont issues de la loi sur l'architecture. Cette loi sur l'architecture, je vais un petit peu la caricaturer, donc du 3 janvier 77, c'est une loi qui dit que l'architecture est une expression de la culture et que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnement sont d'intérêt public. Et qu'en conséquence de quoi ? Et là, donc, je mets un peu des guillemets, mais qu'il faut pouvoir faire de la médiation et de la promotion de la qualité du territoire et fournir aux personnes qui désirent construire des informations et des orientations et des conseils pour assurer la qualité du cadre de vie et la qualité des constructions et des projets d'aménagement. Donc cette loi d'architecture, elle régit beaucoup l'acte de construire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est architecte, on a envie de pouvoir participer à la construction d'un cadre de vie qui corresponde aux usages et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on instaure et qu'on institue un CIE par département en France. Nous, les CIE, on est donc des associations investies d'une mission de service public. Et donc, notre mission, c'est vraiment servir le public en matière d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire.
Merci beaucoup, Charlotte. Je vous propose de découvrir plus concrètement ce que propose le CIE du Val d'Oise, juste après avoir écouté un premier titre de votre choix, de Bertrand Belin, Oiseau. À tout de suite sur IDFM.
Si j'étais un oiseau, je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne. Je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, cui, 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 cui.
IDFM 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations où je reçois Charlotte Lutringer du CAUE 95. Alors, juste avant la première pause musicale, vous nous avez présenté les particularités et l'enjeu d'un CAUE. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement qui compose ce CAUE du Val-d'Oise précisément?
Oui, bien sûr. Alors déjà, je dois dire que le CAUE est présidé par un élu local. Notre élu est Madame Pélissier, vice-présidente au département. Et ensuite, donc nous sommes une équipe de direction qui sommes accompagnés par des salariés, collaborateurs sans qui en fait on pourrait vraiment pas mettre en place l'ensemble de nos missions sur ce grand territoire qui est le Val d'Oise. Et donc les professionnels recrutés dans les CAUE sont des architectes, des urbanistes, paysagistes, géographes, documentalistes, et chacun accompagne, selon ses besoins, différents acteurs du département à travers diverses missions. Alors, qui sont les acteurs qu'on peut accompagner ? En fait, vous l'avez compris, le CAUE, c'est un lieu de rencontre, d'échange et de diffusion culturelle. Et donc, nous aidons tous les acteurs du département. Alors, ça peut être des particuliers, ça peut être des élus, ça peut être des professionnels de services techniques, des enseignants, des enfants, des professionnels de la profession, enfin du bâtiment, etc., ou de voilà, à prendre les meilleures décisions pour leur cadre de vie. Voilà, nous au CAUE du Val d'Oise, on est 9 équivalents temps plein. On est 14 professionnels aujourd'hui, et voilà, tout le monde arpente le territoire pour aller accompagner les différents acteurs.
Donc une équipe très variée, très pluridisciplinaire et très complémentaire.
Très complémentaire sur les sujets de territoire, exactement.
Et alors, quelles sont justement les grandes missions du CAUE sur le Val d'Oise ? Vous nous avez parlé des acteurs qui vous sollicitez ou avec qui vous travaillez régulièrement. Vous avez cité les collectivités territoriales. Concrètement, comment vous les accompagnez ?
Alors, les CAUE ont dans leur statut 4 missions pour promouvoir la qualité du territoire et du Val d'Oise. On a déjà une mission d'accompagnement et d'aide aux communes, de conseil aux collectivités. Nous pouvons aider une municipalité qui en ferait la demande, à repenser une place de village, à réaménager un parc, à valoriser un bâtiment ancien. Alors, par exemple, pourquoi les collectivités valdoisiennes peuvent faire appel à nous ? Elles peuvent avoir, par exemple, un projet d'implantation d'un nouvel équipement, je sais pas, une école, une médiathèque. Elles souhaitent monter ce projet, elles ont une dent creuse en plein centre-ville et elles voudraient imaginer un projet, dessiner un cahier des charges qui soit en harmonie avec le paysage existant. Elles peuvent appeler le CAUE pour qu'on les aide à faire ce programme. Un deuxième exemple, on a des communes qui peuvent, par exemple, nous appeler parce que elles veulent transformer un parking de centre-ville, très bitumé, etc., ou un espace public qui est peut-être parfois un peu désuet, très bitumé, en place conviviale avec des zones végétalisées, des bancs, et en fait, elles savent pas trop vers quoi orienter leur démarche, comment écrire leur cahier des charges, etc. Donc nous aussi, on peut les accompagner à faire des scénarios d'aménagement de cet espace. On peut aussi accompagner des services espaces verts pour concevoir ou revoir la gestion des espaces verts de leur collectivité, en favorisant la biodiversité et puis aussi des nouveaux modes de gestion paysagère. Je peux continuer encore un peu.
Hein, ah ben on aimerait bien, voilà. Mais vous faites tellement de choses que ouais. J'aimerais bien qu'on puisse aussi vous écouter sur vos autres missions. Mais c'est très intéressant. Ce que je comprends, c'est que vous n'êtes donc pas des maîtres d'œuvre. Vous intervenez en amont. Vous aidez à la prise de décision, vous proposez, vous êtes force de proposition en fonction du cahier des charges ou des contraintes du territoire et des collectivités.
Exactement.
Mais après, c'est plus vous qui vous occupez
après,
de la mise
on
en
peut,
œuvre.
Non, c'est plus nous qui nous occupons de la mise en œuvre. On peut aussi aider la collectivité à faire des choix de bons professionnels, maîtres d'œuvre qui vont les accompagner pour faire le dessin du projet. Et puis toujours, voilà, le CIE peut être là à toutes les phases, tout le phasage du projet. Mais voilà. Et puis après, voilà, pour, juste pour terminer là-dessus, mais ça peut être aussi création de rues aux enfants, de réfléchir à la sécurisation des déplacements des piétons dans les communes, d'accompagner la rénovation thermique des bâtiments communaux ou de l'habitat privé, de faire de, enfin voilà, proposer des aménagements pour l'accessibilité, de faire de la concertation avec les habitants et les acteurs, conseiller sur des choix de matériaux, de couleurs. Enfin, en fait, on a vraiment des communes qui nous appellent pour tout un tas de sujets et en effet, on a l'équipe pour répondre à toutes ces demandes.
Oui, et puis votre accompagnement, finalement, il impacte énormément ou prend en compte peut-être dès le départ les modes de déplacement, de vivre l'espace comme il est actuellement.
Oui,
il
complètement.
Il influe sur tout ça.
Mais tout à fait. Et puis en fait, c'est la nécessité aussi de pouvoir, pour une collectivité, anticiper le plus possible son programme pour faire un projet qui réponde aux exigences de l'existant.
Alors, vous conseillez les collectivités territoriales, mais vous conseillez aussi les particuliers.
Oui, tout à fait. Dans nos statuts, nous avons aussi nous faisons du conseil gratuit pour les particuliers. Donc, le CAUE propose un service de conseil gratuit pour les particuliers. C'est-à-dire qu'avant de démarrer un projet, un particulier peut venir rencontrer l'un de nos architectes conseillers et puis on peut les accompagner sur l'implantation d'une extension sur un terrain, sur le choix de matériaux pour une rénovation, sur l'intégration d'une extension dans l'environnement, etc., etc. Voilà. Et puis on accorde aussi une attention particulière aux nouvelles recommandations pour la rénovation énergétique du bâti ancien, qui sont un peu les nouvelles directives de l'État. Et donc, pour aider les particuliers à concilier ces sujets de efficacité énergétique et de respect de l'architecture existante, on a créé un guide dédié à ces questions qui s'appelle architecture-rénovation-thermique.fr. Sur lequel on va pouvoir trouver des conseils pratiques et des orientations et des exemples concrets pour réussir un projet de rénovation en valorisant le patrimoine de sa maison.
C'est le fameux France Rénov, non ? C'est...
Tout à fait.
J'y connais pas grand chose, hein, mais
personne
c'est le nom
n'y connaît grand chose.
Qui
mais en effet, c'est France Rénov, donc une directive de l'État pour accompagner les particuliers à la rénovation énergétique du bâtiment. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus d'appels de particuliers qui se retrouvent un petit peu démunis et mal outillés pour réfléchir à ça. Et donc le CAUE peut accompagner ces questions.
Et ce guide-là, on peut le retrouver facilement ?
Sur notre site internet, caue95.org. Et donc voilà, c'est un site un peu long, hein, donc www.architecture-rénovation-thermique.fr.
Et alors les particuliers, moi ça m'intéresse parce que c'est quand même formidable de proposer un accompagnement, j'imagine, ponctuel. Lorsqu'on vient,
c'est ponctuel. Nous, on fait pas le projet, on n'est pas maître d'œuvre, mais encore une fois, on est là pour accompagner, voilà, quelqu'un qui voudrait, hier, je parlais à une dame qui voulait faire une extension de son salon sur le jardin pour créer une pièce en plus. Bon, bah, quid de la réglementation, quid des matériaux à utiliser, j'ai une maison meulière, est-ce que je peux faire ça? Vous me conseillez quoi? Est-ce que je fais du tout béton? Est-ce que je fais du bois? Est-ce que je fais du rond? Est-ce que je fais du carré? Enfin, en fait, voilà. Donc, nous, on peut un peu l'accompagner à ça.
Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, ou des problématiques sur lesquelles on vous sollicite beaucoup?
Bah, c'est très varié. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de refus de permis de construire. Et donc,
comprendre
là, on peut être
pourquoi.
Un peu comprendre pourquoi on a refusé. Et en général, c'est tout à fait, justifié. Voilà. Mais quand on comprend pas, c'est important de comprendre et puis surtout de pouvoir, voilà.
Et alors, comment on peut prendre rendez-vous avec vous? Est-ce qu'il faut vous travailler avec des collectivités déjà? Est-ce qu'il faut être habitant de ces collectivités? Est-ce qu'on peut vous contacter de manière extrêmement spontanée?
Alors, on nous contacte sur notre numéro de téléphone, le 01 30 38 68 68. Toutes les informations sont sur le site internet du CIE. Et puis, on reçoit les particuliers au CIE directement au Moulin de la Couleuvre. Et sinon, on propose aussi...
À Pontoise.
Et puis sinon, on peut aussi... On fait des permanences dans des collectivités. On a à peu près une quinzaine de collectivités. Je vais pas les citer, ce serait trop long. Mais donc, où on a des jours et on travaille directement, en fait, avec les services instructeurs de permis de construire. Et voilà, vous pouvez, vous particulier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans votre commune. Et puis, s'il n'y a pas de permanence, on fait de la visio, on fait du téléphone, on vous accueille. Enfin, voilà, on dit jamais non à un accompagnement.
Merci beaucoup. Je vous propose de continuer notre conversation juste après avoir écouté « T'es mon tout » de Flavia Coelho. À tout de suite sur IDFM.
Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas, parce que t'es ma gauche et ma droite, mon ciel et mon trépas, parce que c'est pour toi que j'imagine tous mes foutus stratagèmes, et que t'es la seule raison d'être de ce maudit théorème. Parce que tu es tout ce que je voudrais être, tout ce que je ne suis pas, parce que tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas, parce que sans dessus, dessous, je suis plus qu'un fantôme et c'est tout. Parce que t'es mon seul problème et mon seul remède s'y va. Parce que t'es le poison et la cure, c'est la seule chose dont je sois sûre. Tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime,
tout ce que j'aime.
Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas, parce que t'es ma gauche et ma droite. Je sais plus où je suis quand t'es plus là. Parce que tu sais tout ce que je veux et aussi tout ce que je ne veux pas. Parce que tu es tout ce que j'ai et tout ce qu'il me restera. Parce que tu es tout ce pétillant qui font mon tout et c'est pas rien. Tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime,
tout ce que j'aime.
Et même si l'on s'échine et qu'on se honte souvent, moi je sais que l'air que j'expire est plus doux quand t'es dedans. Tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas, parce que t'es ma gauche et ma droite, mon ciel et mon trépas. Parce que tu sais tout ce que je veux et aussi tout ce que je ne veux pas. Parce que la seule chose qui me hante, c'est la distance jusqu'à tes bras. Tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations avec Charlotte Lutringer du cabinet d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Val-d'Oise. Alors on a parlé des deux grandes missions, deux premières grandes missions du CAUE. Conseiller les collectivités territoriales, conseiller les particuliers, mais évidemment, vous avez encore d'autres actions très importantes, celle de notamment former et de sensibiliser les acteurs du cadre de vie. Alors, pourquoi d'abord c'est important de les d'être formé et d'être sensibilisé à ce cadre de vie?
On l'a déjà dit en introduction, mais l'architecture, l'urbanisme, le paysage au service de tous les habitants du Val-d'Oise, ça veut aussi dire pouvoir sensibiliser, rendre d'intérêt public et donc informer les acteurs de ce qui se construit, qu'est-ce qu'un beau projet, comment est-ce qu'on analyse un projet, puis surtout comment est-ce que on peut former le regard engagé des habitants sur leur ville. C'est vrai que dans ma pratique, moi j'entends souvent des acteurs me dire ah mais attendez, c'est vous l'architecte, c'est vous qui savez. Et en fait, moi, ça m'offusque parce qu'en réalité, j'ai jamais construit. Non, moi, je ne sais pas plus que vous, madame, monsieur, ou... Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que, voilà, la sensibilisation, elle est là pour ça. Donc, nous sensibilisons nos publics à l'architecture, l'urbanisme, le paysage, en proposant des conférences, des webinaires, des visites guidées, des expositions, des ciné-débats. Concrètement, par exemple, récemment, nous avons organisé une visite pour comprendre la transformation du quartier de la ZAC des Linans d'Assergy. Comment ça s'est construit, par qui, qu'est-ce qui est intéressant, comment est traité le paysage dans ce quartier, et le logement, pourquoi ces choix, etc., etc. Donc voilà, c'est des occasions aussi de rencontrer, de donner la parole aux maîtres d'œuvre, de rencontrer les architectes du projet, les aménageurs, qui viennent aussi nous donner les contraintes d'un projet. Donc voilà.
Par exemple, qui est votre public?
Alors, ça peut être, c'est souvent assez mélangé, du grand public, ça peut être des élus, ça peut être des services techniques, de collectivités, des professionnels, d'autres architectes qui viennent sur d'autres départements parce qu'ils sont intéressés par le projet. Puis voilà, tout ce beau monde permet aussi de faire un discours. Sinon aussi, on a animé là le mois dernier un ciné-débat au cinéma de l'Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône autour du documentaire Habiter le paysage de Mathilde Morière qui propose, qui donne la parole, c'est un documentaire très intéressant qui donne la parole à une agence d'architecture qui fait un peu du projet autrement. Donc voilà, et puis sinon ça peut être aussi, on a aussi organisé une visite du très beau projet de renaturation de la place du centre-ville de Bessancourt, de l'hôtel de ville qui vient d'être primé au jury des villes et villages fleuris qui, voilà, ils ont eu un prix de la participation du projet ou de l'ambition du projet, enfin j'ai plus exactement le prix du projet, mais voilà, qui sont pour nous, en fait on fait de la veille. On a une documentaliste au CIE qui fait beaucoup de veille sur les projets. Et donc, nous, on aime bien donner à voir aussi ce qui se construit.
Et donc, ça, c'est accessible
sur notre site internet, à tous. Alors, évidemment, il vaut mieux être abonné à notre newsletter. On fonctionne beaucoup comme ça.
Donc, ça, oui, parce qu'il faut la trouver quand même.
Il faut la trouver, évidemment. On n'est pas... on essaye de faire au mieux. Donc, on est sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et puis après, voilà, on communique sur notre newsletter.
Alors, quand je disais il faut la trouver, je disais pas forcément que vous communiquez mal.
Oui, non, j'ai bien compris.
C'est surtout que c'est très juste. Enfin, moi, ça a résonné en moi, lorsque vous avez dit, mais c'est vrai que l'architecture, on a plutôt tendance à pas se sentir, nous, communs des mortels, se sentir concernés parce que on se dit, c'est très technique, il y a un certain type d'études, on n'est pas forcément très concernés. Donc, de fait, on peut ne pas forcément, habitant lambda, se sentir légitime ou intéressé même par tout ce que vous proposez, alors que une visite urbaine, expliquer l'histoire d'un quartier, comment elle s'est pensée. Vous parliez de Cergy. Cergy, c'est une ville nouvelle, plus trop nouvelle, mais c'est une ville qui est sortie, qui a été pensée, qui a des noms de rues spécifiques, qui ont été d'ailleurs choisis par les enfants. Donc il y a vraiment toute une histoire aussi derrière qui peut expliquer aussi ces grandes places des Linandes, par exemple.
Mais complètement. Non, mais tout à fait. Je veux dire, c'est un vrai sujet que les habitants soient acculturés sur ces... Parce que vous me disiez à l'instant que vous vous sentiez pas concerné, et pourtant, vous habitez quelque part, vous avez un toit sur votre tête, vous prenez part. La vue depuis chez vous est importante. La façon dont vous allez pouvoir cuisiner, la façon dont vous allez pouvoir vous isoler dans votre chambre, etc. Tout ça, c'est de l'architecture. Donc, faire les ponts entre les habitants, les institutions, les professionnels, le grand public, c'est vraiment la mission du CIE. Et puis, quoi de mieux, pardon, je vous coupe. Je continue.
Oui, absolument.
Quoi de mieux du coup pour pouvoir sensibiliser le grand public que de former le jeune public. Et c'est vrai qu'au CIE, depuis 15 ans ou même peut-être 20 ans maintenant, les CIE ont une culture de la sensibilisation du jeune public. Et donc nous, en Val-d'Oise, on a mis en place un pôle pédagogique qui sensibilise les jeunes générations et qui vise à essayer de fabriquer le regard engagé des jeunes générations sur leur espace public. Alors concrètement, nous sensibilisons les enfants de la maternelle au lycée à la découverte et à la compréhension de leur cadre de vie. Et chaque année, on accompagne les enseignants des centres de loisirs, des acteurs locaux au montage et à l'animation d'ateliers éducatifs sur mesure qui prennent comme sujet la ville. Donc ça peut être un sujet dans ces collèges. Pourquoi pas faire de la danse au collège? En fait, ça, on est obligé de penser à la scénographie du collège. On va pas danser de la même manière dans une classe que dans le réfectoire, que dans le hall, que dans la cour. Voilà, tout ça, ce sont des espaces à analyser, des usages, et donc ça permet vraiment de... Ces ateliers, on peut faire de la maquette, on peut faire de la lecture de paysages, des cartes sensibles, de la photographie, etc., etc. Donc on développe des outils pour faire cette médiation, vulgariser nos métiers.
Oui, d'expliquer aussi ce qu'est le métier, par exemple, d'architecte,
bien
d'urbaniste.
Sûr, complètement.
Et ouais. Est-ce que vous montez des projets avec les enfants, les plus jeunes, sur aussi la projection qu'ils ont?
Oui.
Pour leur ville, je me rappelle moi d'un travail quand j'étais plus jeune, où on avait avec nos professeurs travaillé sur la ville du futur.
Oui.
Donc forcément, il y avait des voitures volantes en 2000 déjà, et puis après en 2020. Donc elles ne sont pas là, les voitures volantes. Mais est-ce que vous allez un peu aussi sur les autoriser un peu à imaginer plus tard dans 100 ans
je dirais même qu'on ne fait que ça, enfin c'est-à-dire que nous on n'a pas forcément une lecture du patrimoine tout le temps, nous au contraire on est plutôt à comment inventer la ville de demain. Et donc oui, c'est des sujets qui sont très récurrents aussi dans les demandes des enseignants. Partir de l'existant et inventer ce qui va et nos modes d'habiter de demain. Donc c'est vraiment des sujets qui sont très abordés.
Et vous sauriez dire comment ils projettent la ville du futur, les traits communs, je dirais.
Les enfants, alors là c'est amusant parce que pendant les vacances scolaires dernières, je ne citerai pas le nom de la commune parce que je pense qu'on est en période préélectorale et qu'on n'a pas le droit de... Mais on a parfois des demandes de collectivités qui font des révisions de PLU. Et donc nous, on les accompagne en amont de cette révision sur des pré-PADD. Et on a travaillé avec une collectivité en associant justement les habitants et les enfants et le regard des enfants à leur ville sur leur ville demain. Et donc on a travaillé avec un fond de maquette où on retrouvait tous les grands tracés, les lieux un peu symboliques de la ville, le théâtre, la rue principale, la rue des écoles, etc. Et puis on leur a demandé de se projeter là-dessus. Donc en général, les enfants, ils enlèvent la voiture, ils créent des lieux conviviaux, végétalisés, où ils vont pouvoir se retrouver. En général, et aussi, ils éliminent les parents un peu. Donc en fait, ils mettent les parents de côté et puis ils se font des places publiques ou des centres commerciaux où ils vont pouvoir aller acheter des bonbons, des glaces, des jeux vidéo, des paillettes,
des
ballons pour certains, etc. Mais où surtout les parents ne sont pas là. Ouais.
Donc de l'autonomie.
Et ça, c'est un vrai sujet. On parlera tout à l'heure un peu du focus sur les cours Oasis, mais en effet, les enfants sont de moins en moins autonomes dans l'espace public. Aujourd'hui, enfin moi aussi je suis maman, hein, quand notre enfant il doit aller au bout de la rue, on a l'impression qu'il faut qu'on lui mette un GPS dans la poche, une puce pour pouvoir le suivre. Et en fait, on a constaté, il y a des études qui montrent que les enfants sont de moins en moins autonomes dans la ville, mais c'est aussi parce que en fait Donc ça, c'est des vrais sujets pour les enfants. Et puis après, des maisons colorées. Et puis en fait, du ludique, en fait. C'est-à-dire, et ça, je pense que c'est tout à fait possible à mettre en place. Mais en fait, les enfants, ils ont besoin de concret, de ludique et de bâtiments qui servent, en fait.
Les enfants et puis même les adultes.
Et finalement,
au final,
les adultes.
On a, pouvoir interagir avec ce qui nous entoure, c'est quand même plus sympa.
Bien sûr.
Que de juste traverser un territoire, un espace, sans même parfois lever les yeux, et de découvrir, ce qui est mon cas parfois, de me dire, ah, mais très jolie maison que je n'avais jamais vue jusque là, parce qu'à un moment donné, on attend
on
un endroit,
seul.
On regarde, on prend le temps de regarder. Merci Charlotte pour cette présentation. On écoute le dernier titre de votre choix, de Dire Straits, Sultans of Swing. Et on se parle juste après sur IDFM des cours Oasis.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dad and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass, doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans. We are the Sultans of Swing.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations avec Charlotte Lutringer du CAUE 95. Bon, plus de suspense. Moi, c'est en plus un sujet vraiment en discutant avec vous que j'ai trouvé assez passionnant. Votre association accompagne depuis quelques années déjà des projets de transformation de cours d'école en oasis. Alors, qu'est-ce que c'est que... D'abord, comment vous mettez en place cette transformation-là? Puis surtout, c'est quoi des cours oasis?
Alors oui, mais en plus, ça fait une bonne transition avec... On parlait juste avant la pose de la place des enfants dans la fabrique de la ville. Et donc, c'est vrai que ça fait une bonne transition parce que ces projets de cours oasis, c'est une vraie façon concrète de pouvoir impliquer les enfants dans des décisions collectives. Et voilà. Alors, en effet, le CAUE accompagne les collectivités dans leurs projets de transformation des cours d'école et d'espaces publics en cours oasis. En fait, oasis, ça veut dire O pour ouverture, A pour adaptation, S pour sensibilisation, I pour innovation et lien social, en fait. Voilà. La ville de, je suis obligée de les citer parce qu'en fait, la ville de Paris a maintenant à peu près 9 ans lancé ses projets de réflexion sur la transformation des cours d'école. En réalité, le constat, il est assez simple. C'est quand on regarde une cour d'école, c'est triste à mourir, quoi. C'est un peu du constat sans appel. Je pense qu'on est tous un peu d'accord pour se dire que c'est des espaces extérieurs, certes. Mais
très bitumé, très gris.
Exactement.
Certains ont la chance d'avoir des jeux à jour, je dirais.
On dirait
où
que
ils
vous lisez
accéder.
Mes petites fiches. J'ai l'impression que vous
non,
êtes là.
Non, mais j'ai un petit garçon et donc
voilà.
Ce que je vous disais en off, c'est que.
Et donc, oui. C'est vraiment ça le sujet. Ces cours d'école, hormis sur le temps récréatif, elles permettent en effet aux enfants de faire une pause et de se dépenser. Mais le constat, c'est que les cours sont bitumés, vides, dépourvus de végétation, d'espaces de jeu, etc. Et que ce projet de cours oasis questionne vraiment la cour d'école et la cour d'école dans sa transformation pour être un laboratoire d'expérimentation pour les jeunes générations et pour devenir aussi un laboratoire d'expérimentation des espaces publics et de la transformation des espaces publics. Transformer une cour d'école, c'est un peu une opportunité pour offrir aux usagers, aux acteurs, plus de végétation, d'espaces naturels, une meilleure gestion de l'eau de pluie, des points d'eau, des aménagements plus ludiques, des coins calmes, de repenser les usages des enfants, etc., etc. Et donc, le CAUE accompagne les collectivités sur la transformation des cours d'école, en effet.
Alors, qui est-ce que vous réunissez autour de ce projet quand une mairie vient toquer à votre porte, vous demande vos services, sollicite vos services pour accompagner cette transformation de leur cours d'école?
Mais en effet, déjà, c'est de convaincre la mairie qu'il faut changer un peu de paradigme. Il s'agit de changer de façon de faire du projet dans ces projets de cours d'école. La cour d'école n'est plus seulement un lieu de récréation. C'est aussi un espace où on va poser la question de l'inclusion, poser la question de la pédagogie. Nous, c'est aussi des questions qu'on pose beaucoup aux enseignants. C'est-à-dire comment la cour d'école peut être une extension de la salle de classe. Pourquoi pas? Comment est-ce que cet espace public peut devenir aussi résilient face aux enjeux climatiques? On sait qu'il fait parfois, nous on a des enseignants qui nous disent, mais il fait 45 degrés dans la cour d'école en été. Donc comment est-ce que ces cours peuvent aussi participer à diminuer les effets d'îlots de chaleur? Et puis, comment est-ce qu'il y a des aménagements qui vont pouvoir permettre aux enfants de jouer autrement, d'avoir, oui, il y ait plus de jeux récréatifs, peut-être des parcours sensoriels, peut-être de pouvoir se mettre pieds nus dans la cour, peut-être qu'on va pouvoir faire du potager dans l'école, faire classe dehors, des espaces pour apprendre, etc. Et donc, en fait, les municipalités, elles font appel à nous, parce que nous, on est là toujours en amont du projet, vous l'avez compris, c'est pas nous qui dessinons le projet. Mais nous, on accompagne les différents acteurs de la collectivité et de l'école pour réfléchir et trouver un consensus dans le programme de la future cour de récréation. En fait, le principe, c'est de réinterroger les usages avant tout. quand on arrive, si la commune, elle vient dans la cour d'école, qu'elle fait son projet, qu'elle demande à personne, qu'elle arrive au mois de juillet, qu'elle débitume tout, qu'elle met ses petits jeux, lit ici, là, etc., vous pouvez être sûr qu'à la rentrée, les enseignants, en fait, ils auront du mal à s'approprier cette nouvelle cour. En fait, nous, l'idée, c'est que, en amont du projet, on interroge tous les acteurs, les élèves, les équipes éducatives qui sont en fait les enseignants, la directrice, le périscolaire, les ATSEM, toutes les personnes qui travaillent avec l'école finalement, les services d'entretien, les parents d'élèves.
Alors, mais comment ça se passe, ces échanges entre tout le monde? Est-ce que finalement on arrive à plutôt s'accorder? Est-ce que le constat des cours d'école grises et bitumées, on l'a tous et toutes? Est-ce que ça se passe bien?
Eh ben oui, ça se passe super bien, parce que dès lors qu'on explique et qu'on donne envie, et surtout qu'on laisse aussi la possibilité aux acteurs de choisir ce qu'ils ont envie de mettre, où est-ce qu'il serait plus opportun de mettre des activités dynamiques, où est-ce qu'il serait plus opportun de mettre une classe dehors, et comment est-ce que j'envisage de faire classe dehors, et puis si on désimperméabilise, quel matériau on met à la place du bitume, est-ce que c'est des copeaux de sable, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est de l'herbe, est-ce que c'est de la terre. Et puis en fait, toutes ces questions aussi de réaménagement de cours d'école, elles posent des questions de... Bah, les enfants vont rentrer sales dans les classes, donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'on met en place des chaussons? En fait, tout ça, ça permet aussi nos ateliers de désamorcer toutes ces questions d'appropriation de la future cour. Et puis de penser à un programme. Donc dans ce programme des cours d'école, nous, on propose souvent aux utilisateurs, enfin en tout cas aux acteurs qu'on accompagne, de pouvoir intégrer et de repenser la cour en y intégrant des usages qui vont tourner autour de l'éveil des sens. Donc on sait que les enfants, ils ont besoin de pouvoir manipuler des matériaux comme du sable, des graviers, des copeaux de bois. Ils adorent en fait quand on change ça, d'avoir dans une cour d'école un endroit où on peut avoir un seau, une pelle, faire des montagnes de copeaux, jouer à la potion de sorcière, à la cuisine, etc. C'est des choses qui fonctionnent très bien. On invite aussi les usagers à se questionner en fait sur tous ces usages calmes, support d'imaginaire, la cabane, les miroirs, les tableaux, d'encourager l'autonomie et la prise de risque aussi. C'est-à-dire que dans ces usages dynamiques, souvent aujourd'hui, les cours d'école, elles sont tellement vides qu'en fait, les enfants, il y a zéro risque. Et en même temps, ils se font des bobos tout le temps parce que ils tombent sur le bitume et ça fait super mal de tomber sur le bitume, de se trouer le jean, etc. En fait, dans ces nouvelles cours d'école, on re-questionne aussi le jeu moteur de l'enfant, c'est-à-dire que...
L'équilibre, le
exactement. L'autre fois, on discutait avec une enseignante de maternelle qui nous disait, moi j'ai des élèves qui arrivent en petite section de maternelle et qui en fait, parfois, ne sont pas trop sortis de chez eux dans leur toute petite enfance et en fait, qui ont des déficits d'équilibre et de motricité. Et donc, en fait, ces cours d'école, elles doivent être là aussi pour permettre aux enfants de prendre des risques en autonomie, sans se mettre évidemment en danger. Mais en fait, de plus en plus, maintenant, quand les enfants, ils montent sur un toboggan, attention, non, tiens-moi la main, non, mais fais-moi confiance, en fait, je vais y aller, je vais glisser, etc. Donc, il y a aussi tout ça, les barres de galipettes, l'escalade, les rondins de bois, etc. Puis après, dans les usages, c'est aussi tous les usages du vivre ensemble et de l'inclusion. Donc donner une place aux activités calmes, à la lecture, à la discussion, aux jeux de société, etc. Donc ça, sur quoi on le fait? Comment? On les met où? Donc tout ça, c'est des questions qu'évidemment on pose beaucoup aux enseignants. Puis les espaces pour les filles, les espaces pour les petits, les garçons, les grands, les petits, les enfants énergiques, les enfants plus calmes. Enfin, tout ça, c'est aussi
c'est
des questions.
C'est comment on arrive à faire cohabiter tout le monde.
Exactement, et surtout à recréer ces usages. Puis après, il y a tout le sujet d'adaptation au climat et à la biodiversité. Souvent, les collectivités, elles vont chercher des financements pour pouvoir transformer leurs cours d'école. Et en fait, c'est aussi quel type de végétation on va mettre. On va planter des arbres, des arbustes, des herbacées. Comment est-ce qu'on peut refaire biodiversité? C'est vrai que la question de réintroduire le vivant dans la ville, c'est une question primordiale aujourd'hui. Même si on est en Val d'Oise et qu'on a l'impression que peut-être en Val d'Oise, on a plus d'espaces naturels environnants autour de nous, des forêts, etc. En fait, les enfants sont quand même très peu dans la forêt, dans les milieux naturels. Et donc, en fait, voilà, nous, au CAE, on milite aussi pour que les espaces publics puissent accueillir du vivant. Donc,
et est-ce que vous avez des retours déjà des équipes enseignantes et pédagogiques de ces nouvelles cours, qui pratiquent ces nouvelles cours?
Ouais, alors, on a accompagné, je pense que nous, là, on doit avoir accompagné 15 cours déjà en agglomération de Cergy-Pontoise. Valparaiso, on en a accompagné plusieurs un peu partout. Vous pouvez retrouver les exemples de cours. Donc en fait, nous, comme on accompagne, on anticipe le projet et on implique tous les acteurs dès le démarrage. En fait, on organise des ateliers de réflexion, on sensibilise. Et donc oui, on a des retours d'enseignants et on parle beaucoup avec eux. On revient ensuite dans les cours et puis on fait nos visites dans le cadre de nos programmes, etc. Donc oui, on donne beaucoup là. On essaye de donner le plus possible la parole aux acteurs et ils adorent en fait. En général, on
se rend compte. J'imagine qu'ils sont contents.
Ouais, ils sont contents. Alors, il y a forcément, hein, parfois, il y a des enseignants qui râlent, des ajustements.
Bah oui, parce que
c'est des cours vivantes.
Voilà, donc, c'est que ça implique aussi une réflexion, une nouvelle approche aussi de sa place en tant que professionnel dans la cour. Voilà. Donc, j'imagine que parfois, il faut aussi un peu de temps pour s'adapter. Et sur les financements du CAUE, qui vous permet ou quel partenaire vous permet justement de pouvoir proposer toutes ces actions?
Ouais, c'est une très bonne question pour conclure parce que je crois qu'on arrive un peu à la fin de notre interview. Les CAUE en fait sont financés. Le financement des CAUE provient des recettes départementales de la taxe d'aménagement. En fait, cette taxe d'aménagement, c'est un impôt local qui est perçu par les communes, les communautés de communes et le département. Et elle est éligible pour toute création de surface de construction et pour certains aménagements. Donc nous, en fait, on a un pourcentage de cette taxe d'aménagement qui permet de financer presque à, je dirais, 75% le CAUE. Et puis ensuite, on a des membres adhérents et on fait des petites subventions de participation financière avec les collectivités qu'on accompagne. Et puis parfois on a des partenariats avec des acteurs culturels ou autres. Et voilà.
Et vous parliez justement en introduction que et puis d'ailleurs, on n'arrête pas de dire CAUE du Val d'Oise. Mmh. C'est un réseau. C'est-à-dire que vous êtes une association à part entière sur le département, mais vous faites partie aussi d'une dynamique beaucoup plus nationale ou régionale.
Tout à fait. Les CAUE, donc on a tous la même mission. Il y a 95 conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en France qui sont présents sur tous les départements pratiquement. Et en fait, donc il y a une fédération nationale qui permet de partager des expériences, des ressources, des bonnes pratiques parce qu'évidemment aussi, sur ces sujets de cours Oasis par exemple, on fait des échanges de bonnes pratiques. Et après aussi, on a au niveau régional, Île-de-France, Francilien, on a une union régionale des CAUE d'Île-de-France. Et donc, c'est une structure qui coordonne les actions des CAUE franciliens et qui favorise la coopération entre les départements et soutient des initiatives de communes autour de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage.
Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue nous présenter le CAUE 95. Je me réfléchissais, j'avais bien prononcé CAUE 95 avec autant d'enthousiasme et d'engagement. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter?
Alors, www.caue95.org, ça c'est notre site internet. Après, vous allez avoir toutes les informations là. Numéro de téléphone 01 30 38 68 68. Nos locaux sont au Moulin de la Couleuvre, rue des Deux Ponts à Pontoise. Et puis après, voilà, on a des mails et on
vous téléphone. Trouve facilement sur Internet.
Je pense.
J'ai été ravie de vous recevoir. Un grand merci à Erwan pour la réalisation de cette émission.
Merci.
Quant à nous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous dis à la rentrée pour découvrir de nouvelles associations.